VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Diarr, en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel. Nous sommes lundi 26 mars 2018 au sommaire. En Éthiopie, des opposants récemment graciés ont de nouveau été arrêtés. Angola, le fils de l'ancien président Dos Santos, inculpé de fraude portant sur 500 millions de dollars. Les Égyptiens ont commencé à voter pour un scrutin présidentiel dans lequel le président Abdel Fattah al-Sissi est donné largement favori. Et ici aux États-Unis, Washington expulse une soixantaine de Russes. Londres salue la réponse extraordinaire de ses alliés. Et dans la partie magazine, retour sur la 19e édition de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso.
Le warba est une danse qui se pratique lors des rites culturels dans la région du centre-ouest.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout de suite, le journal. Bienvenue à tous. L'opposition togolaise engagée dans des pourparlers avec le pouvoir a annoncé qu'elle n'accepterait jamais que Faure Gnassingbé se représente pour un quatrième mandat lors de l'élection présidentielle prévue en 2020. Après plus de 6 mois de manifestations populaires pour demander la démission du président togolais au pouvoir depuis 2005, opposition et parti au pouvoir ont commencé des négociations difficiles sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Au Burkina Faso, une explosion jugée accidentelle fait 2 morts et 1 blessé grave à Bobo-Dioulasso. Cette explosion intervient en pleine célébration de la 19e Semaine nationale de la culture à Bobo. Une correspondance sur place de Lamine Traoré.
2 personnes ont été tuées dans cette explosion, selon les autorités sécuritaires. Il s'agit d'un agent des douanes en poste et la dame de ménage et 1 blessé grave, l'enfant de la dame de ménage en question. On note aussi d'importants dégâts matériels, des murs brisés et des véhicules détruits. Selon les mêmes sources sécuritaires, il s'agirait d'une explosion accidentelle. La piste terroriste est pour le moment à écarter, ont-elles affirmé. Une enquête a été immédiatement ouverte pour tenter de situer les responsabilités. Cette explosion intervient en pleine célébration de la SNC, Semaine nationale de la culture, ouverte samedi. Depuis quelques jours, la succose d'une éventuelle attaque terroriste montait ici à Bobo-Dioulasso, même si les autorités rassurent. Cette explosion de ce lundi matin ne fera qu'augmenter la peur au sein des populations durant toute cette semaine culturelle. Lamine Traoré, Bobo-Dioulasso, VOA Afrique.
Nous reviendrons sur les célébrations de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso dans la partie magazine. Le premier ministre malien Soumaïlou Boubé Maïga prône la réconciliation nationale au dernier jour d'une visite dans le nord et le centre du Mali. Il a évoqué ce lundi à Bandiagara, dans la région de Mopti, l'avant-projet de loi d'entente nationale qui lui a été remis au début du mois, réaffirmant que le sort des combattants qui n'ont pas de sang sur les mains serait pris en compte. Le second tour de la présidentielle en Sierra Leone, prévu demain, se tiendra finalement le samedi 31 mars, a annoncé ce lundi dans un communiqué la Commission électorale nationale. La République démocratique du Congo veut financer sur fonds propres les élections du 23 décembre. Kinshasa invite les bailleurs étrangers à orienter l'argent prévu pour les élections à d'autres secteurs. En Éthiopie, la police a arrêté dimanche un groupe de 11 opposants politiques, des activistes et des journalistes dont certains venaient tout juste d'être graciés et libérés de prison. Les précisions de John Lyndon.
Parmi les personnes arrêtées figurent le journaliste Eskinder Nega et l'opposant Amdoulen Haraj qui avaient été libérés en mars après plus de 6 années de prison dans le cadre d'une amnistie annoncée en janvier par le premier ministre éthiopien. Selon l'avocat Ameha Mekonnen, des blogueurs, membres de Zone 9, un collectif très critique du gouvernement, sont aussi parmi les personnes arrêtées. Les dernières poursuites judiciaires lancées en 2014 contre elle avaient pourtant été abandonnées en février. Tous ces opposants qui ont été interpellés hier participaient à un événement pour célébrer la libération des milliers de prisonniers dans le cadre de l'amnistie. La police est arrivée et a encerclé la maison où ils se trouvaient. De tels rassemblements sont interdits par l'état d'urgence décrété le 16 février et qui autorise la détention sans procès. Il a été instauré au lendemain de la démission du Premier ministre. Depuis le 20 mars, la direction du parti au pouvoir s'est réunie pour élire son successeur qui se fait toujours attendre. L'Éthiopie est secouée par une vague sans précédent de manifestations anti-gouvernementales depuis plus de 2 ans.
En Angola, José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président, a été inculpé de fraude. Il aurait ordonné un virement jugé suspect de quelque 500 millions de dollars lorsqu'il dirigeait le fonds souverain du pays. Le point avec Morgane Guériec.
Le procureur général adjoint, Luis Benza Zanga, a annoncé que José Filomeno dos Santos est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. Surnommé Zenou, il a été nommé par son père, le président José Eduardo dos Santos, en 2013, à la tête d'un fonds souverain avec un capital initial de 5 milliards de dollars. Il a été limogé en janvier dernier par le nouveau président João Lourenço. L'ancien directeur de la Banque centrale, Walter Felipe da Silva, est également inculpé dans cette même affaire. Le magistrat a indiqué que même si l'argent a déjà été rendu à l'Angola, les deux accusés sont sous contrôle judiciaire et leurs passeports ont été retirés. Isabel dos Santos, demi-sœur de Zenou, a aussi été limogée à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. La justice a ouvert une enquête sur de possibles détournements de fonds. Considérée comme la femme la plus riche du continent, Madame dos Santos a rejeté toutes ces accusations.
Les 60 millions d'électeurs ont jusqu'à mercredi pour se prononcer entre le président sortant Abdel Fattah al-Sissi et son unique adversaire Moussa Mostafa Moussa, lui-même fervent partisan du président égyptien. Monsieur Sissi a été parmi les premiers.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma comparaîtra le 6 avril devant un tribunal pour répondre d'accusations de corruption dans une affaire de vente d'armes impliquant le groupe français d'électronique Thales. M. Zuma a été renvoyé le 16 mars devant la justice pour fraude, corruption et blanchiment d'argent. Les Égyptiens ont commencé à voter aujourd'hui pour un scrutin présidentiel de 3 jours. Le président sortant Abdel Fattah al-Sissi est assuré de décrocher un deuxième mandat. Yacouba Ouedraogo.
Les 60 millions d'électeurs ont jusqu'à mercredi pour se prononcer entre le président sortant Abdel Fattah al-Sissi et son unique adversaire Moussa Mostafa Moussa, lui-même fervent partisan du président égyptien. M. Sissi a été parmi les premiers à voter dans le quartier d'Héliopolis, au Caire. Il n'a fait aucune déclaration à la presse. Le premier ministre Chérif Ismaël a aussi voté au même endroit. Rien ne fera peur au peuple égyptien, ni les attaques terroristes, ni quoi que ce soit d'autre, a déclaré M. Ismaël après son vote. Les opérations électorales sont placées sous haute surveillance. Le groupe État islamique a promis de s'attaquer à des lieux de vote. Samedi, 2 policiers ont été tués dans un attentat à Alexandrie et 6 suspects islamistes ont été abattus dimanche, d'après le ministère de l'Intérieur. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril. M. Sissi est le grand favori, l'enjeu reste le taux de participation.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont annoncé l'expulsion de 60 Russes dans le cadre d'une action coordonnée entre pays occidentaux. C'est, disent-ils, pour répondre à l'empoisonnement au gaz d'un ex-agent russe et de sa fille en Grande-Bretagne. C'est comme une avalanche d'expulsion de diplomates russes en Occident. Idriss Fall.
L'administration américaine a annoncé que 48 agents de renseignement connus du consulat de Russie à Seattle et 12 à la mission russe de l'ONU ont 7 jours pour quitter les États-Unis. La Maison-Blanche a aussi décidé de fermer le consulat russe de Seattle, citant sa proximité avec une base de sous-marins et des installations de Boeing. Le Canada emboîte le pas avec l'expulsion de 4 Russes et rejette 3 demandes de personnel supplémentaire présentées par Moscou. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, annonce que 14 pays de l'Union européenne ont adopté les mêmes mesures. La France donne 1 semaine à 4 diplomates russes. L'Allemagne, de son côté, expulse 4 diplomates russes. L'Italie a renvoyé 2 diplomates russes, tout comme le Danemark. Plusieurs pays qui faisaient partie de l'ancien bloc soviétique, la Pologne, l'Ukraine, la République tchèque, les 3 pays baltes, ont annoncé l'expulsion de dizaines de diplomates russes en solidarité avec Londres pour répondre à l'empoisonnement d'un ex-agent russe et de sa fille en Grande-Bretagne.
Le président Donald Trump dément fortement et clairement avoir eu une liaison avec l'actrice porno Stormy Daniels, selon un porte-parole de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche n'a rien à se reprocher, a dit Raj Shah, renvoyant les journalistes à la campagne et à l'avocat de M. Trump qui a versé les 130 000 dollars à l'actrice. Plus de 240 000 personnes, dont les acteurs espagnols Penélope Cruz et Javier Bardem, ont signé une pétition exigeant la libération du bateau d'une ONG espagnole dédiée au sauvetage des migrants en mer. Le bateau est retenu en Italie sur ordre de la justice. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manila Kizar qui nous présente la Minute Éco.
La Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, a déjà investi en Afrique de l'Ouest près de 5 110 milliards de francs CFA depuis le début de ses activités en 1973. Sa mission est de promouvoir le développement équilibré des États membres et de contribuer à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. La toute dernière opération d'investissement dans l'institution porte sur 195 milliards de francs CFA et vise à soutenir des projets en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal et au Bénin. En Côte d'Ivoire, la balance commerciale a dégagé un excédent de plus de 1 708 milliards de francs CFA en 2017. Les exportations se sont accrues de près de 9% et les importations ont légèrement progressé de plus de 3%. Les principaux fournisseurs de la Côte d'Ivoire proviennent de l'Union européenne, de l'Asie et de la CEDEAO. L'ensemble des approvisionnements en marchandises en provenance de ces zones représente plus de 81% des importations en valeur. La Chine appelle les États-Unis à cesser l'intimidation en matière économique. C'est à la suite des jours de tensions qui ont ravivé le spectre d'une guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales. La semaine dernière, le président américain Donald Trump a imposé des taxes sur des importations chinoises d'une valeur pouvant atteindre 60 milliards de dollars. La nouvelle a secoué les marchés financiers. L'action Boeing a perdu quelque 10% de sa valeur à Wall Street.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Les matchs amicaux se poursuivent sur la planète football.
Ce lundi soir, un alléchant Portugal-Pays-Bas à Genève. On rappelle que le Portugal de Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, a bien lancé sa préparation pour ce Mondial 2018 en renversant vendredi à Zurich l'Égypte dans les arrêts de jeu de buts à 1. Évidemment, la star du Real Madrid, Ronaldo, pour son 900e match pro, a inscrit ses 80 et 81e buts en sélection portugaise, rejoignant par la même occasion le podium des meilleurs buteurs de l'histoire des sélections nationales. On suivra également mardi d'autres matchs amicaux, notamment à Dar es Salaam, la Tanzanie contre la RDC, le Kenya face à la Centrafrique, Angleterre-Italie, Bosnie-Sénégal au Havre, la Côte d'Ivoire face à la Moldavie, Tunisie-Costa Rica et puis à Berlin, la revanche des Brésiliens pour la première fois depuis cette demi-finale catastrophique, perdu 7 buts à 1 contre la Mannschaft. Les Brésiliens et les Allemands se retrouvent pour ce match amical qui va sentir la poudre. Autre rencontre, le Maroc face à l'Ouzbékistan et le Nigeria face à la Serbie.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Le champion en titre Golden State a été surclassé dimanche à domicile par Utah. Une défaite 91 à 110. Houston ne se pose pas de questions. Pour la première fois de son histoire, l'équipe a atteint le chiffre de 60 victoires en saison régulière en écrasant Atlanta 118 à 99. Portland s'est imposé sur le parquet d'Oklahoma City 108 à 105 au terme d'un match houleux avec altercation et provocation. À l'ouest toujours, San Antonio a vu sa série de 6 victoires consécutives prendre fin à Milwaukee. Une défaite 103 à 106. À l'Est, LeBron James continue de cimenter sa place dans l'histoire de la NBA. Il a conduit Cleveland à une 5e victoire consécutive à Brooklyn, 121 à 114, mais c'est un détail. Surtout, LeBron James a dépassé pour la 10e fois dans sa carrière le seuil des 2000 points inscrits lors d'une saison régulière. Tenez-vous bien, seuls les légendaires Karl Malone et Michael Jordan avaient réussi ce tour de force avant lui. Allez, un dernier résultat avant de se quitter. Indiana est venu à bout de Miami en prolongation, 113 à 107, et a composté son billet pour les playoffs, ainsi que celui de Philadelphie, une première depuis 2012 pour les Sixers.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe tout de suite au dossier du jour. Au Tchad, un forum national sur les réformes institutionnelles tire à sa fin après une semaine de travaux. Sa clôture est prévue pour demain mardi. La réunion a été boycottée par l'opposition et une partie de la société civile qui avait été invitée à participer à sa préparation. Ce forum devrait aboutir à un allongement de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, renouvelable une fois, à la création d'un Sénat ou encore à la refonte des régions. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a déjà annoncé la mise en place d'une 4e République. De N'Djamena, le point avec André Kolmajingar.
Ce forum, qui au départ a un caractère national et inclusif selon les organisateurs, se résume progressivement à un congrès du parti au pouvoir, car au deuxième jour, l'UMPS impose un présidium pour diriger les débats. La société civile indépendante bourdonne et quitte la salle parce que selon elle, le choix n'est pas consensuel. Au quatrième jour de débat, l'UMPS et ses courtisans optent pour un régime présidentiel avec la création du poste de vice-présidence. Quelques petits partis politiques de l'opposition présents dans la salle pilonnent ses propos et claquent la porte alors qu'ils savaient qu'en partie participant à ce forum, il crédibilisait le régime. Réaction du secrétaire général de l'Union nationale pour la démocratie et le socialisme, Garial Modeste.
On donne des paroles par affinité. Les gens qui étaient préparés, qui se prononcent sur le sujet, qui est aussi sensible. Donc ça, c'est pour aller à l'état unitaire et je n'apprécie pas ça. Il a fallu que je joue le rôle d'un voyou pour qu'on nous donne deux interventions. Dommage.
Vu la configuration des participants et le niveau des débats, l'enseignant-chercheur à l'École nationale d'administration, Dr Sitak Yombatna Beni, invité comme personne ressource, gèle également sa participation. Il affirme avoir été roulé dans la farine.
On a un document qui est devant nous. On ne travaille pas sur le document et on travaille à côté. Vous avez des gens qui sont fabriqués, n'est-ce pas, dans les coulisses. Ils viennent injecter une idée et on choisit les gens qui doivent applaudir et puis c'est terminé. On a bouclé, on s'en va quoi. C'est de la comédie, on perd le temps et donc je pense que j'ai d'autres choses à faire que de venir m'asseoir là pour applaudir les choses.
Le président du présidium, Dr Noradine Deloua Kassire Koumakoué, dont sa désignation ne fait pas l'unanimité, respecte le choix de ceux qui ont claqué la porte.
Celui qui veut rester. Il reste. Celui qui veut partir, il part. On a invité tout le monde pour participer à l'action. Nous ne sommes pas venus pour l'argent. Le fédéralisme est rejeté. Personne n'en fait cas. C'est la décentralisation administrative.
Docteur Maoundou Noudji Gilbert, politologue et constitutionnaliste qui suit de près le débat, parle d'une escroquerie politico-intellectuelle.
Le choix qui a été fait par les participants, c'est un régime présidentialiste qui nous ramène à la constitution de 90 de Hissène Habré qui donnait tout le pouvoir à un homme et les institutions sont là simplement pour cautionner. Donc, je ne pense pas que ce soit dans la volonté de Déby de mourir au pouvoir, puisque lui-même, il a dit, il n'a pas eu de jeunesse. Donc, au moins, qu'on crée les conditions pour qu'il ait de retraite.
La plateforme des organisations professionnelles des médias n'a pas été associée au débat. Toutefois, elle prend acte de son exclusion à ce forum et se réserve le droit de se prononcer sur les conclusions qui, selon le président Déby, pourraient aboutir à la naissance de la 4e République du Tchad. André Kodmadingar N'Djamena, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour sur l'emprisonnement de trois personnalités au Cameroun pour malversation financière. Elles sont écrouées à Yaoundé depuis le 21 mars. De nouvelles arrestations ne sont pas à écarter, d'autant que d'autres commis de l'État, gestionnaires des deniers publics, ont été convoqués par le tribunal criminel spécial ou interdit de quitter le territoire camerounais. L'opinion publique est toutefois partagée quant à cette opération menée dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements de fonds de l'État, comme nous allons l'entendre dans ce reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jiltap.
L'indice n'a pas été trompeur. L'interdiction par les services de sécurité de sortie du territoire à certains hauts responsables du pays vient de lancer une nouvelle phase de la lutte contre le détournement de fonds publics au Cameroun. L'ancien directeur général de la Camwater, Utilistis, William Solo, l'ex-directeur de l'université de Douala, Bruno Bekoloebe, un ancien secrétaire d'État aux travaux publics, ont été les premiers à être écroués. Le chronogramme de ces arrestations est loin d'être fortuit en cette année électorale au Cameroun. Njoya Moussa est enseignant et politologue à l'université de Yaoundé 1.
Le président Biya se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'une thématique véritable en termes de bilan pour la campagne. Alors, on peut s'accrocher sur cette diversion de la population à travers la relance de cette opération épervier. Et justement, je crois qu'elle va s'intensifier davantage pour pouvoir servir de casse-sexe à cette absence de bilan satisfaisant de ce temps passé.
Les trois fonctionnaires sont soupçonnés des malversations financières et erreurs de gestion de plus de 50 milliards de francs CFA commises dans leurs fonctions respectives, ce qui est loin de laisser indifférent Salomon, un jeune employé du secteur privé à Yaoundé.
Dans un pays, lorsque les gens qui nous dirigent confondent un peu l'argent de l'État avec leur propre argent, il est de bon ton que ces personnes-là puissent répondre face à leur mauvaise gestion. Je crois que nous sommes dans un pays de droit.
Dans la classe politique camerounaise, la relance de l'opération dite épervier au Cameroun n'enthousiasme pas tout le monde. Alice Sadio, présidente de l'Alliance des forces progressistes.
Tant que nous copierons sous ce modèle ultra-centralisé, où tous les pouvoirs sont à la merci du pouvoir exécutif, le fléau que nous avons nommé corruption et détournement de deniers publics ne sera jamais résorbé. Cette opération épervier est ni plus ni moins que la plus grosse escroquerie du siècle.
Contactés, les avocats des premières personnalités écrouées se réservent encore de s'exprimer à la presse. En Berne, depuis 4 ans, la campagne d'arrestation des hauts gestionnaires de l'État indélicat en cours est la 5e du genre. Soulaire, Paul Biya, Yaoundé, Emmanuel Julta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ouverture de la Semaine nationale de la culture, 19e édition à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Le ton a été donné ce week-end et au moins 1500 artistes venus de toutes les localités du Burkina prennent part à la Biennale culturelle. Reportage Lamine Traoré.
Le premier ministre Paul Kabatieba, par ses 3 coups de gong, a ainsi donné le top départ de la 19e édition de la SNC, Semaine nationale de la culture, Bobo 2018. Plusieurs centaines de personnes au stade ont vu défiler l'ensemble des communautés du Burkina Faso, des richesses et diversités culturelles venues des 13 régions du pays. Des artistes, toutes disciplines confondues, danse, musique traditionnelle, art culinaire, littérature et bien d'autres, sont à Bobo. Cette troupe, dans la catégorie poule jeune, venue de la région du centre-ouest, va présenter une danse traditionnelle burkinabé, le warba. Kirsi Tiemtore est l'encadreur de la troupe.
Le warba est une danse qui se pratique lors des rites culturels dans la région du centre-ouest, notamment lors des activités de semences, de labour et des funérailles. Cette danse se danse en accoutrement mwaga.
Ousmane Bansé est responsable d'une troupe du centre-est qui compétit dans la catégorie cœur populaire.
Le cœur populaire, c'est une discipline dans laquelle on demande aux artistes de prouver qu'ils chantent. C'est les chansons qui sont valorisées ici, pas les danses comme ça.
Durant donc une semaine, près de 1300 artistes seront sur les scènes à Bobo-Dioulasso. Au moins 300 000 festivaliers sont attendus à cette Semaine nationale de la culture 2018, selon les organisateurs. Lamine Traoré, Bobo-Dioulasso, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Grandmoms and dads sailed in ships and boats to Ellis Island and down the coast, torn away from shattered homes. They cleared land they didn't own, plant and seed, fought a war so we'd be free. Now we're keepers of the peace.
Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Patrick Deya. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Face aux attaques néfastes et continues émanant de la Russie, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a annoncé des sanctions additionnelles contre 19 individus et entités russes pour une série d'activités déstabilisatrices, y compris l'ingérence dans les élections américaines de 2016 et une série de cyberattaques destructives. Dans une déclaration écrite, le département du Trésor a relevé que l'une de ces actions, l'attaque NotPetya, attribuée par les États-Unis et le Royaume-Uni à l'armée russe, était la plus destructive et la plus coûteuse de l'histoire. Elle a causé des milliards de dollars de dommages à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Selon le département du Trésor, depuis au moins mars 2016, les cyberacteurs gouvernementaux russes ont également pris pour cible des entités gouvernementales américaines et de nombreux secteurs, y compris des installations énergétiques, nucléaires, commerciales et des systèmes d'adduction d'eau, les secteurs aéronautiques et manufacturiers critiques. Les sanctions imposées par le Trésor américain gèlent les biens dont disposaient les personnes et entités visées et qui seraient sous la juridiction des États-Unis. Et par ailleurs, elles interdisent à tout ressortissant américain de conduire des affaires avec eux. Le département du Trésor a relevé qu'en plus des cyberactivités néfastes de la Russie, les États-Unis continuent de faire pression sur ce pays pour ses efforts en vue de déstabiliser l'Ukraine, occuper la Crimée, s'ingérer dans les élections, de même que sa corruption endémique et ses violations des droits humains. Le département du Trésor a ajouté que la récente utilisation de gaz énervant dans une tentative d'assassiner deux citoyens britanniques illustre encore plus le comportement cavalier et irresponsable du gouvernement russe. Sous le président Trump, les États-Unis ont imposé des sanctions à plus de 100 individus et entités en rapport avec les dossiers ukrainiens et russes. Ces sanctions, a fait savoir le département du Trésor, s'ajoutent aux efforts du département contre les activités déstabilisatrices et menant de la Russie, y compris les sanctions contre des Russes en rapport avec la Corée du Nord, le programme mondial Magnitsky et la loi Sergueï Magnitsky. À l'annonce le 15 mars des nouvelles sanctions contre les individus et entités russes, la question a été posée à la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, de savoir si la Russie était une amie ou une ennemie des États-Unis. Ils devront décider s'ils veulent être des bons ou des mauvais acteurs, a-t-elle répondu. Je pense que vous pouvez voir, à travers les actions que nous avons initiées jusqu'ici, que nous attendons afficher notre fermeté vis-à-vis de la Russie, jusqu'à ce qu'elle change d'attitude.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.